Bruno Retailleau. Je rappelle que vous êtes aussi candidat à l'Élysée, à l'élection présidentielle, puisque maintenant, voici venu le moment de débattre avec Charles Consigny, dans le signé Consigny, comme tous les soirs à la même heure. Bonsoir Charles Consigny.
Bonsoir.
Vous nous rejoignez. Première question,
bonsoir,
est-ce
Charles
que
Consigny.
Bruno Retailleau, mon candidat à l'Élysée, est-ce qu'il ferait mieux qu'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il ferait mieux sur la sécurité et la justice?
Oh, je pense quand même.
Il y a pas de mal. Faut dire qu'il y a pas de mal. Hein. C'est pas vraiment me donner le point parce que l'angle mort quand même du président de la République, ça aura été pendant ces deux mandats.
La sécurité et la justice.
La sécurité, le régalien, bien sûr.
Je pense quand même parce que en cette matière comme dans les autres, il faut choisir une direction. Le grand drame du macronisme, ça a été de ne jamais choisir de direction. Et donc, ça peut pas marcher ni sur la sécurité, ni sur la justice, et pas tellement sur les autres sujets. Le seul sujet sur lequel ils ont été à peu près clairs, c'était l'attractivité du pays.
La politique de l'offre.
Et là, ça a un peu fonctionné. Donc, ça montre qu'il faut choisir. Et je crois que Bruno Retailleau est plus clair dans ses options que ne l'est Emmanuel Macron ou tout candidat macroniste s'agissant de la sécurité. Néanmoins, moi, je pense quand même que, au fond, je ne sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la conférence de presse de l'avocat d'une autre victime de ce monsieur Barella, qui s'appelle Rosa.
Voilà.
Et cet avocat a dit, il y a des enquêteurs et des magistrats qui sont désinvestis, des partisans du moindre effort. Et moi, effectivement, je pense que on est à un tournant de l'histoire de notre pays, et il faut mettre les pieds dans le plat sur tous les sujets. Et effectivement, comme avocat, quand je vais au palais de justice et qui arrive 16h45, je vois le palais se vider avec des gens qui courent pour se tirer de là, pour pas rester une minute de plus que le temps qu'ils sont censés passer dans leur bureau. Et je pense que dans un pays comme le nôtre, avec les défis qu'on a en matière de sécurité et de justice, ça peut pas fonctionner. Donc ce que j'entrevois, moi, dans le drame qui est arrivé, c'est en fait la démobilisation du pays. Et le fait que les gens ne veulent plus bosser, ne sont plus sur le pont, ne sont plus à leur poste, ne veulent plus faire leur boulot, et résultat des courses, le système ne peut pas fonctionner.
Bruno Retailleau, d'accord avec ça? Il faut remettre aussi les magistrats et peut-être les policiers.
Alors, je ne généraliserai pas, parce que comme ministre de l'Intérieur, j'ai vécu des moments difficiles, où j'ai vu des enquêteurs, donc policiers ou gendarmes, qui agissaient d'ailleurs sous l'autorité judiciaire, hein, d'un procureur et autres, vraiment mobilisés. Passer les nuits, des nuits, des week-ends. Donc, on peut pas généraliser. Ce que vous appelez effectivement cette démobilisation, moi, je l'appelle la bureaucratisation. Et cette affaire en témoigne. Je m'explique. Aujourd'hui, on a un État totalement bureaucratisé. Totalement bureaucratisé. Les commandes ne répondent plus. La preuve, le garde des Sceaux fait des circulaires. Il dit qu'il va falloir prioriser les violences, notamment vis-à-vis des pédophiles, etc., sur les mineurs. Et en réalité, il n'est pas obéi. Il n'y a pas d'effectivité. Et c'est ça, parce que beaucoup, d'abord, croulent effectivement sous les affaires, et beaucoup ont perdu le sens de leur métier, de leur mission. Moi, je passais beaucoup, beaucoup de temps à aller au contact des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des préfets, des policiers, pour leur rappeler leur mission. Parce que souvent, ils se sont engagés, ils avaient un idéal, mais avec la complexité des procédures. Regardez, vous êtes avocat. Dans la bureaucratisation, il y a un truc qui a amené à cette bureaucratisation, c'est la complexité des procédures. Les histoires, le régime des nullités, pour un oui ou pour un non, pour un vice de forme, et par exemple dans le narcotrafic, où souvent on a des avocats très très pointus, il arrive souvent que pour un rien du tout, vous annulez une procédure qui ôtait pourtant la conclusion de mois et des mois de plans de travail.
Et on peut remettre en liberté des délinquants.
Donc c'est tout ça qu'il va falloir simple. Débureaucratiser, ça veut dire moins de normes, etc. Et ça voudra dire aussi s'attacher à l'essentiel et pas à l'accessoire. À l'essentiel, c'est-à-dire le fond. Comment se fait-il que dans cette affaire de la petite Rosa, il n'y ait pas eu un coup de fil? Il y a des transmissions qui mettent des mois et des mois. Il n'y a pas un coup de fil. Donc,
surtout,
les gens se sentent totalement démobilisés. C'est vrai.
Moi, surtout dans l'affaire de la petite Rosa, ce qui est insensé, c'est que c'est dans cette affaire que la mère de l'enfant téléphonait chaque semaine à la brigade de gendarmerie et qu'elle s'était vue répondre que si elle continuait, ils allaient finir par porter plainte pour harcèlement. Moi, il y a une autre chose que je demande. demande et qu'on n'a pas là depuis le début, sauf erreur de ma part, de cette histoire, c'est des sanctions. Où sont les sanctions individuelles ? Individuelles contre les parquetiers et les agents de gendarmerie, les effectifs de gendarmerie qui sont responsables de ce désastre. Moi, je suis désolé.
Oui, mais... il s'agit de faute professionnelle.
Si vous voulez, quand j'entends, j'en entends beaucoup, par exemple, qui voudraient dire que c'est la responsabilité des politiques. Je trouve que ce serait beaucoup trop facile. Je m'inscris en faux contre cette idée parce que, pour le coup, non. Pour le coup, c'est un défaut d'exécution de leur boulot par les gens qui étaient en charge de ces affaires.
Alors, il y a une enquête administrative, on aura les conclusions le 19
juin.
Oui,
mais alors moi, j'aimerais bien, je crois que c'est vous, monsieur Retailleau, qui l'avez relevé, le Conseil supérieur de la magistrature prononce à peu près 5 à 10 sanctions par an.
Et encore, pour des faits qui peuvent ne pas relever de la faute professionnelle.
Voilà.
Qui peuvent relever parce qu'il y a eu un harcèlement sexuel de telle ou telle greffière, etc. Donc, je citais tout à l'heure les chiffres. Moi, je vous rejoins totalement. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé une cour disciplinaire. Parce que je pense que le CSM ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il est trop corporatiste. Il est très syndicalisé.
Est-ce que vous êtes pour revenir sur la loi Taubira sur l'indépendance des parquets?
Ben écoutez,
que vous venez de le dire dans l'interview.
Voilà, pardon. Je viens de le dire. Je pense que je suis moi pour qu'il y ait un lien entre le garde des Sceaux et le parquet, parce que si on veut avoir une politique pénale, là, ça le montre. Voilà.
Bien sûr.
Il faut qu'il y ait une direction, parce que encore une fois, le parquet c'est le ministère public. Pour bien expliquer aux téléspectateurs, le ministère public, c'est-à-dire le procureur, il est chargé d'abord de défendre les intérêts de la société. Et les intérêts de la société, c'est les intérêts du peuple français. Eh bien, il faut qu'ils en répondent via le ministre. Mais donc, il faut qu'il y ait un lien. Et je suis pour qu'on abroge la loi Taubira, qu'on abroge la loi Belloubet, qui ne nous permet pas aujourd'hui, pour des peines de prison de moins d'un an, d'emprisonner vraiment les gens. Voilà, donc c'est vraiment un laxisme idéologique pénal qui va falloir revoir.
Moi, je trouve que si vous voulez, les procureurs n'étaient pas considérés comme juges parce qu'ils étaient sous la dépendance hiérarchique du ministre de la Justice. Et donc, au sens du droit européen, ils ne pouvaient pas être appelés magistrats. Ça a fini par les vexer et donc ils ont voulu avoir leur indépendance. Mais je pense que ça n'a pas de sens, l'indépendance des procureurs, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Chacun fait sa tambouille dans son coin, qui décide de quoi? Ça n'a aucun sens. Donc moi, je suis contre l'indépendance du parquet, mais je pense plus largement que vous dites les peines de moins d'un an qui doivent être exécutées, etc. C'est vrai, mais je crois qu'on est quand même à un point de rupture maintenant en France, où en fait il faut faire une espèce de révolution intellectuelle presque sur la procédure pénale et le droit pénal. C'est-à-dire, moi je pense qu'on a besoin d'un système comme comme a été appliqué au Salvador, un système extrêmement raide où vous êtes sanctionné très durement dès votre première incartade, parce que sinon vous avez des gens qui passent plusieurs fois devant les tribunaux, qui ont du sursis, qui ont du ceci, qui ont du cela. Finalement, ils finissent par être sanctionné quand c'est un sursis qui tombe, mais entre-temps, ils ont eu le temps de s'enquister dans la délinquance et la criminalité. Donc moi, je pense qu'on doit maintenant inverser le
système. Est-ce que Retailleau, c'est Bukele? Est-ce que c'est le Salvador si vous arrivez à l'Élysée? Est-ce que vous renversez la table? Est-ce que c'est la manière...
Renverser la table, oui.
Non, mais parce que c'est ce que veulent les Français aujourd'hui. Quand ils entendent qu'on va traiter 70 000 plaintes, personne n'est dupe, ça ne se fera pas, tout le monde le sait.
Déjà, au moins, traitons les plaintes. Là,
un avocat nous disait qu'ils étaient en train d'écluser des affaires qui datent de 2014,
non, mais
monsieur Retailleau.
Pardon. Mais sur ces 70 000 plaintes, soyons très concrets. Combien y en a-t-il du même type que la petite Rosa? Je m'explique. Où vous aviez eu, justement, des violences sexuelles, viols notamment, avec un certificat, une enquête médico-légale. Donc, elles étaient avérées, puisque on a su qu'il y avait des lésions et que la petite Rosa était même passée devant une psychologue. C'est là, il y en a beaucoup moins de 70 000. Donc c'est possible de revoir ces milliers, mais à condition de s'attacher au plus important. Mais j'ai proposé tout à l'heure, vous n'étiez pas là Charles Consigny, la suppression du JAP, du juge d'application des peines, parce que ça me paraît inconcevable qu'en France, un juge, il y a déjà un juge qui va juger au tribunal, il donne une peine, il prononce une peine, mais il y a un autre juge qui va défaire ce que le juge précédent avait déjà fait.
D'accord.
Pour moi, c'est terminé et je suis, notamment pour la justice des mineurs, pour incarcérer beaucoup plus tôt, y compris sur des courtes peines, sinon on enferme les gens dans des parcours de délinquance. C'est pour ça que les narcotrafiquants, ils ont bien compris, hein. Pourquoi ils utilisent des gamins de 14, de 15 ans et de 16 ans?
Oui.
Parce qu'ils risquent pas grand-chose.
D'accord, mais vous faites des propositions de fermeté. Mais ceux qui nous regardent et qui veulent effectivement plus de fermeté, c'est ce que disent tous les sondages, ils estiment que la justice est trop laxiste, etc. Mais pourquoi ils voteraient Retailleau, ils vont voter Bardella ou Le Pen? Parce que ceux qui incarnent aujourd'hui, dans les mêmes sondages, la fermeté, notamment sur les questions régaliennes, bah c'est Bardella et Le Pen. Dans tous les sondages, ils arrivent en tête.
Ils ont changé le Rassemblement national. Vous ne trouverez pas un sujet, y compris l'immigration, puisqu'ils voulaient l'immigration zéro. Vous ne trouverez pas un sujet sur lequel il n'est pas changé d'avis.
Sur la sécurité?
Oui, mais sur les propositions. C'est un parti girouette. Nous, je pense que j'ai l'exercice du pouvoir. J'ai été ministre de l'Intérieur. Je sais les verrous.
Oui, mais vous, justement, vous avez un bilan. Eux, ils n'ont jamais été au pouvoir, donc ils vont écouter. Monsieur Retailleau, on l'a vu au ministère intérieur.
Oui, mais ça a changé.
Il y a eu des échecs.
Tiens, pardon.
A une archive.
On a une archive qui
vous concerne, monsieur Retailleau.
Je termine juste. Oui. Bon, c'est que ça sera dans mon projet présidentiel. Je ferai un référendum et je soumettrai une nouvelle politique pénale aux Français par référendum. C'est les Français.
Emmanuel Macron,
c'est pas
s'il avait promis des référendums, on les a jamais vus.
Non, mais oui, mais je suis pas. Ça vous a pas échappé, justement. Alors, justement. Emmanuel Macron, je soumettrai au référendum juste la justice, la politique pénale que choisiront les Françaises et les Français.
Ah bah justement, il y a un an, vous étiez ministre de l'Intérieur. Il y avait la finale de la Ligue des Champions avec des incidents. Voilà ce que vous disiez.
Je suis en colère aujourd'hui, comme beaucoup de Français, qui ne s'habituent pas plus que je ne m'habitue, à ce déchaînement de violence. On ne peut plus avoir, finalement, de grandes fêtes sportives sans qu'il y ait une mobilisation massive de forces de sécurité intérieure. Oui, ce sont des barbares. La réponse, c'est bien entendu une réponse pénale qui soit massive et efficace pour redonner du sens à la sanction, je l'ai souvent dit d'ailleurs, au niveau des plus jeunes.
Voilà, c'était il y a un an. Un an après, ça recommence. L'homme qui était derrière vous est devenu ministre de l'Intérieur, alors en lunettes. Donc pourquoi est-ce qu'on vous fera encore confiance?
Attendez, qu'est-ce que je dis?
C'est la même chose que les incidents de violence.
Attendez, je vous dis...
Pensez qu'il pensait aux peines et
je
à
vous
la
dis,
peur des policiers.
Je dis, il faut des vraies sanctions. Regardez, pourquoi les gens sont écœurés? Parce que le week-end, les émeutiers, avec la deuxième étoile du PSG, vous avez plus de 570 arrestations, interpellations, gardées à vue, et vous avez trois petits cas d'individus qui ont fait des choses horribles, qui vont faire de la prison ferme. Donc la sanction, elle n'est pas au niveau. C'est ce que je viens de vous expliquer. Deuxième élément, moi j'avais tiré les conclusions, d'ailleurs, de ce maintien de l'ordre. Et quand il y a eu le phénomène en septembre, souvenez-vous, on va bloquer la France, j'avais demandé aux policiers, aux gendarmes, d'aller au contact, de ne plus attendre qu'on leur envoie des pavés pour réagir, mais de réagir et d'aller au contact très vite. Et ça s'était vu d'ailleurs au niveau des images. Vous retrouverez dans vos archives ces images. Et croyez-moi...
Oui, mais vous étiez ministre de l'Intérieur, ça a cassé quand même, Bruno Retailleau.
Mais écoutez, je ne vous dis pas que... Bien sûr que c'est difficile.
Donc ça veut
ce
dire
que je vous dis, moi, c'est que je n'avais pas le pouvoir. Si, demain, je changerais les choses, parce que les sanctions, grâce aux Français au référendum, seront justement au rendez-vous. Et deuxième chose, le maintien de l'ordre. Il faut que les ministres de l'Intérieur prennent des risques. Je sais que on n'aime pas dire aux policiers et aux gendarmes « allez au contact ». Parce que quand on va au contact... on risque parfois des pépins.
Oui, et c'est le policier qui, en général, ensuite, pour
suivre. Et en plus, exactement. Mais si on ne fait pas ça, on laisse faire.
Moi, j'ai pas de solution miracle non plus, mais je pense que, s'agissant de ces émeutes, comme s'agissant de tout le reste, la sécurité, ça n'est pas que la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose de tous ces jeunes désœuvrés qui ne savent plus quoi faire d'autre que de venir casser quand il y a des matchs, que de tomber dans la délinquance et la criminalité. Ah, je pense qu'on en a beaucoup qui sont...
faut le mettre en vague, faut leur donner des vacances, des perspectives de vacances.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui font rien de la journée.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y en a beaucoup qui font rien de la journée. Ensuite, je pense qu'il faut, là aussi, faire des choix. J'ai déjà eu l'occasion de citer ce chiffre. Le budget de la justice, c'est 10 milliards d'euros. Le budget de la protection sociale, c'est 650 milliards d'euros. Bon, bah, il faut peut-être qu'on se demande... Vous voyez ce que je veux dire? Les Français, ce qu'ils disent, c'est que eux ne se sont pas résignés à l'écroulement du service public de la justice. La réalité, c'est que les politiques, comme les professionnels du droit, juges, avocats, tout le monde, en gros, on sait qu'on a une machine judiciaire qui est complètement embolisée. Si on avait un hôpital dans le même état que la justice, on aurait des patients qui mourraient tous les jours dans le couloir, faute de pouvoir être soignés. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on ne tolérerait pas une seconde ce qui se passe dans la justice, dans un autre service public plus vital comme l'hôpital. Donc, c'est qu'en réalité, il suffirait qu'on prenne un tout petit peu sur les dépenses de protection sociale pour doubler le budget du ministère de la Justice. Mais ça, c'est aussi... un choix collectif que les Français doivent faire. Est-ce qu'ils veulent sortir de leur société d'assistanat ou est-ce qu'ils veulent y rester ? Dans ce cas-là, faut pas qu'ils s'étonnent.
Et donc, Bruno Retailleau, c'est le meilleur pour gagner en 2027 face au Rassemblement National ou Mélenchon ?
Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'il faut beaucoup de radicalité.
C'est oui, sinon...
Peut-être. Je n'ai pas.
Vous n'êtes pas encore convaincu.
Non, mais c'est pas ça.
Je vais vous dire.
Moi, par exemple, j'ai vu Monsieur Retailleau que vous proposiez la suppression de 250 000 postes de fonctionnaires. François Fillon proposait 500 000. Moi, je pense qu'il faut.
Il n'a pas été élu.
Moi, je pense qu'il faut 1 million parce qu'on a un million de fonctionnaires.
C'est une surenchère.
On a 1 million de fonctionnaires en plus qu'en Allemagne. Alors qu'on est 15 millions de personnes en moins. L'Allemagne n'est pas un pays sous-administré.
Vous dites à M. Retailleau, passer 1 million.
Moi, ce que je lui dis, ouais, c'est de passer la seconde, si vous voulez. C'est d'être beaucoup plus radical. Parce que je pense qu'il y a dans le pays maintenant.
Vous n'êtes pas assez radical.
Une exaspération et il faut à tout prix, à mon sens, porter des propositions qui soient vraiment fortes.
Mais
je suis d'accord, vous êtes candidat
demi-teinte.
Simplement, ce que je dis, c'est que vous l'avez dit vous-même. Il faut des services publics qui fonctionnent. Police, gendarmerie, juge, on a des carences.
Oui, mais on peut pas mettre de l'argent partout aussi. Hein.
Mais on est d'accord, c'est pour ça que 1 million, on ne le fera pas 1 million, c'est pas la peine. Moi, je veux proposer des choses dont je suis certain que je tiendrai. Par exemple, sur les normes, ça coûte rien. Mais on est un pays où on paye pratiquement les normes. En France, ça nous coûte pratiquement 20 fois plus que l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas la Chine. Donc là, croyez-moi, en termes de code, en veux-tu, en voilà, j'en ai marre. Il faudra réviser la Constitution, le principe, par exemple, de précaution. Le code du travail, il faudra revenir à des choses...
C'est de précaution qui avait été mis dans la Constitution par un homme de droite, Jacques Chirac.
Oui, parce que au départ, l'intuition était peut-être bonne en disant il faut faire attention, l'environnement, mais on a un principe qui est majeur dans notre droit, cher maître, c'est le principe de responsabilité. Moi, je veux une société qui crée... avec de l'audace, qui prennent de l'initiative. Et ce principe de précaution a tout verrouillé. Je veux déverrouiller les choses.
On parlait de Jean-Luc Mélenchon. Remontrons les images de son meeting, de son premier grand meeting dimanche à Saint-Denis. Il y avait du monde, entre 10 et 20 000 personnes sur ce parvis de la basilique. Vous pourriez remplir autant de monde, Bruno Retailleau, aujourd'hui? J'ai l'impression que la dynamique est plutôt du côté de Mélenchon, depuis qu'il s'est déclaré candidat.
Ça, c'est une dynamique très particulière. Monsieur Mélenchon est un vrai danger pour la République. Et ce sera mon premier adversaire. La nouvelle France de Monsieur Mélenchon, c'est une France racialisée. Vous savez, quand il parle à Toulouse, tout blanc, tout moche, quand ses sbires, Rima Hassan, interprètent et analysent les faits de société, les liens sociaux à travers la couleur de peau, je me dis que le premier racialiste de France, c'est Monsieur Mélenchon. Quand on parle de créolisation...
Oui, Mélenchon, c'est pire que Bardella ?
Est-ce que je peux faire une objection ? J'ai une objection quand même, parce que je suis d'accord avec vous sur le fond, mais moi je trouve quand même, je reconnais quand même à Mélenchon une capacité à embarquer dans la politique des gens auxquels les autres partis politiques ne parlent plus, voire des gens qui se sentent exclus par les autres partis politiques. Je pense que la droite devrait... trouver quelque chose pour embarquer aussi ceux qui aujourd'hui sont sensibles à ce qu'ils perçoivent comme finalement une espèce de main tendue de la part de Mélenchon. Moi, j'avoue que j'ai trouvé son meeting assez bluffant.
Mais
et je me suis dit, les autres ont du pain sur la planche.
Charles Consigny, pas à ce prix-là, pas à ce prix de la violence, pas à ce prix de la racialisation des rapports sociaux, pas à ce prix de l'antisémitisme, ça n'est pas possible.
Non, mais attendez, je veux comprendre.
La République...
Bruno Retailleau, vous avez plus peur aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon que de Jordan Bardella ?
Aujourd'hui, le racialisme, l'antisémitisme, la violence assumée. Regardez ce qui s'est passé.
D'accord,
la
donc
jeune
vous avez
garde.
Plus peur de Mélenchon que Bardella ?
Eh bien, je dis que, objectivement, non, c'est fait
oui
là.
Ou non,
oui, je vous l'ai déjà dit.
Mélenchon, c'est pire que Bardella, vous avez dit.
Je l'ai dit.
Donc, s'il y avait un deuxième tour Mélenchon-Bardella, vous voteriez
non,
Bardella ?
Non, je serai au deuxième tour.
D'accord.
Oui, vous verrez ce soir. Vous verrez ce soir. Je fais. Mon meeting de lancement le 20 juin, c'est une date importante, le 20 juin, eh bien, vous verrez. Et demain, nous serons au second tour et je battrai qui que ce soit M. Mélenchon ou M. Bardella ou Mme Le Pen, je la battrai.
Merci Bruno Retailleau. Pour moi, vous êtes à 7 à 10% dans les sondages, donc loin du deuxième tour.
Vous savez, je me souviens, en 2017, un an avant, Alain Juppé était à 34% et François Fillon à 7%. Je fais mieux que François Fillon pour l'instant.
Merci Bruno Retailleau.
Plus loin que lui sur le programme.
Merci d'avoir été à...
J'irai.
Vous payez vos costards?
Oui, absolument. Je veux pas dire la marque, c'est une marque très accessible. Vous voyez, j'aurais pu la montrer à l'antenne, mais c'est pas bien de faire de la publicité pour les marques.
Merci Bruno Retailleau.